Bien, bonjour à tous. Ma présentation en fait va partir de l'intervention que j'avais faite il y a 2 ans pratiquement maintenant, enfin plus de 2 ans même, lors des précédentes journées organisées par Couperin, où Madame la ministre était venue présenter la convention interétablissement. Cette convention a été portée par la BSN, je pense que vous en souvenez, par le segment 4 de la BSN. Et elle a été effectivement signée, en fait, en avril 2013. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Cette convention, entre autres, qui était autour de Halle, en fait, faisait de Halle l'archive commune et partagée, définissait, entre autres, les modes de mutualisation et puis également la gouvernance du CCSD. Alors, juste avant d'entrer plus dans les détails, quand même, je ne peux pas résister au plaisir de mettre en avant en fait la citation de Manuel Valls lors de sa présentation de la politique du numérique, où il a cité la plateforme HAL, ce dont on était très heureux. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil et on est heureux de ce soutien. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc depuis avril 2013, comme c'était convenu dans la convention, on a évolué, le CCSD qui était unité propre du CNRS a évolué vers une UMS, ça c'était en 2014, avec la mise en place d'un comité de pilotage où sont représentées les tutelles, à savoir le CNRS bien évidemment, INRIA et l'Université de Lyon. Ce comité de pilotage est également composé des représentants du ministère, de la BSN et puis de la direction de l'UMS, c'est-à-dire enfin, moi en l'occurrence pour le moment. Alors, par ailleurs, on a mis en place un comité scientifique et technique. Alors, ce comité scientifique et technique a démarré, en fait, en avril 2014. Et dans ce comité, on a essayé de trouver des représentants des archives institutionnelles existantes dehors de Halle, bien sûr, des archives institutionnelles étant créées dans Halle, des représentants... également des chercheurs, enseignants-chercheurs. Donc là, on avait un souhait, c'était d'avoir au minimum 30% de chercheurs, enseignants-chercheurs qui sont quand même notre public le plus important et c'est en fait pour eux qu'on travaille. Donc c'était aussi important que dans ce comité, on ait un retour et l'expression des besoins et des attentes des enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est le démarrage en 2014. Également, je le cite, là, ce n'est pas du tout institutionnel, mais c'est également la mise en production de la V3 de Halle. Ça, c'était il y a un an maintenant. Grand chantier. Et puis là, on arrive en 2015. Et notamment dans les actions vraiment très, très fortes que l'on a, c'est un engagement renforcé de nos tutelles. Alors, notamment avec un poste INRIA, donc un responsable de plateforme. Donc ça correspondait d'ailleurs à une des recommandations... pardon... Qui était dans la feuille de route rédigée par Serge Boin. Donc ça, c'est vraiment un poste supplémentaire. C'est toujours une chose extrêmement heureuse dans une unité. Et puis également, la subvention du ministère qui a été quadruplée et donc avec aussi une meilleure visibilité, une visibilité pluriannuelle sur... nos ressources, ce qui là aussi met le CCSD dans une situation quand même un peu plus confortable pour imaginer des évolutions et surtout pour travailler même au quotidien. Par ailleurs, a démarré un partenariat avec l'INIST donc pour le contrôle qualité des dépôts et la mise en ligne des dépôts. Alors c'est un partenariat qui a démarré démarré d'ailleurs en juillet, donc avec les vacances. Là, on travaille toujours en binôme, on peut dire, INIST-CCSD. Là aussi, c'est un soutien énorme. C'est aussi impliquer une autre unité dans la gestion de l'archive. Et c'est pour nous une aide vraiment très, très importante. Et on remercie au passage les collègues de l'INIST. Alors, donc là, je vais venir en fait sur le mode de mutualisation. C'est le terme qui était utilisé dans la convention. Donc, en fait, on avait défini 2 termes. L'institution a déjà son archive ouverte qui est créée à l'intérieur de Halle. Donc, c'est ce que nous, on appelle un portail. Donc, aujourd'hui, nous avons 116 portails institutionnels. Vous avez donc la répartition par université, commu, donc qui démarre, là, on en a de plus en plus, par grande école et par institution. Et depuis justement la signature de la convention, il y a eu 25 portails qui ont été créés. Sachant que 2014 a été une année un petit peu creuse en termes de création de portails, puisque c'était l'année de la mise en ligne de la V3 et que tout le monde attendait en fait la V3 pour s'engager dans une politique de portail avec HAL. Autrement, je vous rappelle quand même que les portails qui sont créés en fait peuvent être une archive, vraiment une archive institutionnelle, puisque c'est l'institution qui administre complètement son portail. Et du coup, elle a une interface de dépôt qui est spécifique et la charte graphique correspond complètement à celle de l'établissement. Et puis surtout, au moment où le portail est ouvert, comme grosso modo, tous les établissements sont représentés dans HAL par le jeu des unités mixtes, en fait. Hein, donc dès sa création, le portail a le plaisir de voir qu'il est déjà un peu rempli et qu'il y a déjà 1000, 2000 en fait, documents qui sont déjà déposés et rattachés à son institution. Donc il ne démarre pas à vide, ce qui aussi peut aider dans la communication et dans la mise en valeur de ce projet. Alors, je vérifie parce que comme j'avais noté également des chiffres, je ne voudrais quand même pas oublier des renseignements que je n'ai pas mis sur mon PowerPoint. Alors ensuite, on va regarder le deuxième mode de mutualisation, reversement en fait, d'une archive institutionnelle qui a mis en place sa propre archive ouverte et qui, selon ce qui était défini dans la convention, va reverser en fait ses articles dans HAL. Alors là, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres parce que peut-être qu'il faudrait qu'on soit d'accord sur le terme d'archive ouverte. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça, c'est la façon dont on a questionné la base de données. Ce n'est pas très important. Actuellement, donc, on a 11 000 dépôts qui sont rentrés en fait via un reversement, donc via le protocole SWORD, qui est utilisé par l'ensemble des archives institutionnelles que vous voyez ici. Et par ailleurs, on a, moi j'ai identifié 4 établissements, mais il y en a sans doute d'autres, qui importent également via SWORD. En fait, ma requête était celle-ci, c'était regarder qui importait via SWORD. Et donc, qui à partir de bases de données bibliographiques ou de GED, sont des plateformes qui n'ont pas été identifiées comme étant archives ouvertes, qui peuvent être d'ailleurs diffusées uniquement en intranet. Donc, par exemple, on a 4 établissements qui importent régulièrement maintenant via le protocole SWORD. Alors, d'ailleurs, je fais juste une petite remarque au passage sur l'auto-archivage. Grosso modo, sur HAL, on est autour de 40%, 44% de documents déposés en auto-archivage. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ça se passe par discipline. Par exemple, 80% des documents en mathématiques sont déposés en auto-archivage. Donc là, on voit un comportement particulier. Alors que, par exemple, en sciences du vivant, on n'aura que 26%. Donc après, bon, je ne vais pas vous faire le détail par grand domaine, mais on se rend compte qu'il y a quand même une grande disparité dans les usages. Autre façon de valoriser en fait sa structure, c'est les collections. Actuellement, on a 1700 collections de laboratoires. Ça veut dire qu'en fait, pour les laboratoires, c'est vraiment un outil de communication, c'est un outil de diffusion de leurs publications. Ils peuvent mettre en avant leurs projets de recherche. Ce sont des collections qui sont en général extrêmement bien gérées, extrêmement vivantes et où on travaille aussi la charte graphique. C'est des collections qui sont complètement personnalisées avec la charte graphique du laboratoire. On a en tout 3900 collections, donc le reste, mis à part les 1700 collections de laboratoire qui sont vraiment très importantes, on a des collections qui vont se construire autour d'un projet ANR, d'une équipe de recherche, avec en fait le critère que l'on veut, une conférence, vraiment choisir le critère que l'on veut. Alors dans ces 2200 collections, toutes ne sont pas aussi, on va dire, actives ou dynamiques. Certaines collections sont là et ne sont plus alimentées parce que, par exemple, ça correspondait à un projet ANR et que le projet ANR est terminé, mais la collection reste présente. Alors, dans les grands changements que... Pardon. Dans les grands changements aussi, il y a eu la mise en place de la plateforme Auréal, accès unifié au référentiel. Cette plateforme est utilisée par beaucoup d'établissements, notamment aussi par ceux qui gèrent leur propre, qui ont leur propre archive ouverte, mais qui peuvent utiliser notre référentiel. Donc, c'est le cas. On va retrouver là, les grands référentiels sur lesquels HAL s'appuie complètement. Ce sont vraiment les piliers sur lesquels HAL est construit. Alors, référentiel auteur, hein, on verra dans le slide suivant, en fait, comment ça fonctionne avec un identifiant, donc identifiant auteur, ça a été évoqué, pardon, ça a été évoqué ce matin. Également un référentiel sur les structures de recherche, où on voit, on a tout l'historique en fait, des évolutions d'une structure. On va partir du laboratoire qui va peut-être changer de nom, qui va être en restructuration avec un autre laboratoire. Enfin bon, là, on peut conserver tout l'historique, ce qui est quand même extrêmement important. Et puis, on a la hiérarchie entre les différents types de structures, tutelle, laboratoire, équipe. Donc, on a quatre niveaux. Vous avez donc la deuxième fiche, c'est la fiche justement décrivant une structure. Et puis, en haut, la fiche d'une forme auteur. Également, il y a 13 grands domaines scientifiques qui sont dans HAL, ce qui représente 380 disciplines, si ma mémoire est bonne. Donc là aussi, c'est ce qui permet d'organiser HAL. Et puis, on a signé une convention avec l'ANR, donc qui nous donne les référentiels. Et donc, on a intégré en début d'année la dernière vague 2005-2014, enfin, c'est plus qu'une vague d'ailleurs parce qu'il y avait plusieurs appels. Et donc, en fait, on a un référentiel maintenant qui est complètement à jour, où tous les projets financés par l'ANR sont présents, donc soit 12 892 projets. Et puis également la même chose, on a la liste complète des projets qui sont présents dans OpenAIR, soit 45 394 projets. Ça, c'est important pour que quand l'auteur dépose une publication, si elle a été financée dans le cadre d'une recherche, il puisse faire référence au projet. Alors, je vais un peu plus parler d'idéal et du CV. Donc ça, c'est un des services qui s'adresse directement aux chercheurs. On peut parler là, pour le coup, d'identité numérique du chercheur. Donc, on participe, en fait, à cette identité numérique. Avec un profil HAL, il pourra déposer, évidemment, ses publications, enregistrer ses requêtes, par exemple, dans le cadre de veille scientifique, se créer des alertes également, gérer sa bibliothèque, sa bibliographie, bien évidemment, et puis également gérer son espace FTP, puisque chaque chercheur a la possibilité d'avoir un espace FTP où il va venir déposer, par exemple, des fichiers assez lourds, et il viendra ensuite, au moment où il veut les déposer dans HAL, il pourra, à partir de là, les récupérer, ce qui fait un temps de transfert qui est beaucoup plus court. Et puis, également, créer son CV. Et donc là, vous voyez un exemple de CV qui est présent. S'il n'a pas d'idéal et s'il n'a pas créé un CV, on pourra quand même avoir des informations sur le chercheur. Là, vous avez justement, c'est le deuxième cadre qui est en dessous de ce que donne en fait un CV. Alors, URL pérenne, quelque ça c'est extrêmement important. Également, dans son profil, il va pouvoir intégrer tous ses autres comptes, ses autres identifiants, ORCID, ses comptes Twitter, Archive ID, enfin bon, tous ses identifiants. Et puis également, on pourra voir apparaître ses co-auteurs. Il pourra, c'est vraiment pour lui un outil de communication, si c'est bien l'utiliser, qui est extrêmement valorisant. Donc, je vous encourage à notamment inciter vos chercheurs à se créer un identifiant. Également, une autre activité qui est pour nous extrêmement importante, parce que celle nous permet d'être en contact direct avec nos utilisateurs et vraiment aussi d'échanger, c'est tout ce qui concerne la formation. Donc, avec la mise en ligne de la V3, on a, entre autres, organisé des formations sur les fonctionnalités avancées de HAL, c'est-à-dire l'administration de portails ou de collections. Pour 2014, en fait, en deux séances, nous avons formé en fin d'année une centaine de personnes. Et puis également, grâce à un partenariat avec les urfistes, on a pu réaliser 46 heures de formation, ce qui représente à peu près 120 personnes qui ont été formées en 2015. Et puis également, on est intervenu dans le réseau Aramis, qui est le réseau des informaticiens, où là, on a fait deux séances spécifiques sur les API, et là, on a touché, je pense, une soixantaine de personnes. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation, en fait. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, pas en vrac, mais ce sur quoi on est en train de travailler. C'est vrai que le CCSD, donc vous avez vu, c'est la deuxième vie du CCSD. On est en pleine évolution, on a des moyens, on a des missions, on a des projets qui sont ambitieux. Il faut qu'on fasse l'évolution sans se casser la figure, si on peut dire. Donc là, on est à un moment qui est, on va dire, stratégique pour le CCSD. Alors notamment, nous sommes en train de faire une feuille de route pour 2016-2020. Dans les changements également, là, on est en train de terminer la mise en place. On fonctionne maintenant en méthode agile, hein, méthode agile Scrum. On a commencé en juin. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se met en place. C'est une autre réorganisation du travail. Ce sont d'autres habitudes. Donc, vous voyez qu'en interne, ça demande aussi de faire bouger les membres de l'équipe. Et puis, également, on a à réfléchir sur la tarification des portails. Également, tout ce qui concerne le support. Là, on veut faire un grand chantier sur le support, concernant aussi bien l'outil que sur la gestion des flux, comment faire monter, par exemple, les bugs aux informaticiens. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment en interne. Mais il faut qu'on organise mieux, en fait, la circulation de l'information. Donc on est en train de travailler dessus. Également, voir comment on peut mettre en place des services éditeurs, établir des relations éditeurs, auteurs, archives ouvertes. Et puis aussi, autre grand chantier qui s'ouvre à nous sur plusieurs années, parce que pardon, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd, c'est faire passer, faire évoluer nos plateformes et en priorité en open source. Et dernière phrase, en fait, qui est vraiment la phase de conclusion, je tiens à saluer l'initiative de la réunion de demain. Ça concerne directement la relation avec nos utilisateurs. Dès que nous avons eu l'information, nous, on l'a relayée auprès des administrateurs de portail. Nous sommes très heureux de cette initiative. Le CCSD est prêt à... Pardon. J'ai eu tellement froid, j'ai mal à la gorge. Le CCSD est prêt à travailler, bien évidemment, avec ce groupe. On a fait le choix de ne pas être présent demain pour que, justement, c'est la première réunion, ça s'organise, vous puissiez discuter entre vous, mais nous, on est prêts à vous faire des réponses et ensuite à établir des relations régulières, à voir comment on s'organise. Ça peut être la préfiguration d'un club utilisateur. Je tiens vraiment à vous encourager et de toute façon, on sera amené à discuter sans doute très prochainement avec ce groupe. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Justine. Des questions?
Bonjour. Alors, l'Université Paris-Ouest vient enfin de se décider à se lancer dans un portail HAL, sauf que moi, j'ai annoncé à la commission de la recherche une tarification de 1 200 €. Et du coup, j'aimerais bien savoir vers quoi tend l'évolution de la tarification des portails.
Alors, pour cette année, pour l'année 2016, on va rester dans cette configuration-là de 1 200 €. Lors du dernier comité de pilotage, où il y avait le ministère qui était représenté, le ministère nous a demandé, à juste titre, de beaucoup travailler la communication auprès des portails existants déjà, sur l'évolution. Alors, pour le moment, on est en train d'établir une grille tarifaire qui se calerait. Alors, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est du conditionnel. Je suis désolée de ne pas vous apporter une réponse plus précise, mais on ne vous mettra pas le couteau sous la gorge. Je veux dire, on va vraiment discuter, informer sur la façon dont ça se mettra en œuvre et puis également sur le coût. Donc, ça serait après une forme d'abonnement annuel qui serait calculé donc sur la taille de l'établissement, Donc nombre d'enseignants-chercheurs étudiants, donc là c'est des choses qu'il faut qu'on affine hein, d'ailleurs. Après les montants, on a parlé de démarrer à 1500 euros jusqu'à 4000 euros, à voir après selon le type d'établissement, il pourrait y avoir une... La grille n'est pas du tout fixée, donc je regarde Claude Kirchner qui est aussi le président du comité de pilotage du CCSD, donc c'est des choses dont on discute. Voilà, donc, mais de toute façon, ça ne pourra pas être mis en place. Je ne pense pas qu'on pourra le mettre en place pour 2016, là tout de suite, je veux dire en janvier 2016. Voilà, ça ne me paraît pas réaliste. Et le ministère ne souhaite pas d'ailleurs qu'on aille aussi vite, même s'il souhaite que ça soit mis en place, mais il ne souhaite pas que ça soit fait dans la précipitation.
En tout cas, c'est un service particulièrement appréciable et je pense globalement apprécié. Et il y aura effectivement une contribution annuelle aux frais de mise en place des portails avec le service qui est associé. Les services qui sont associés autour, qui sont, Christine en a montré un certain nombre, tout à fait appréciables. Une dernière question.
Oui. Oui. Olivier Legendre, Clermont-Ferrand, donc soutien inconditionnel à Halle, à Clermont. Première chose, je voudrais vraiment saluer la mention relation avec nos utilisateurs. Je pense que c'est vraiment très très important pour nous parce que c'est peut-être la seule limite que je reconnais à Halle en tant que testeur au moins, d'avoir encore un petit peu de lourdeur dans le processus. Et du coup, ma vraie question qu'on vous a, je sais, désolé, déjà posée 250 000 fois, à quand le petit bouton request dans Halle, ce qui est, je pense, l'exigence de base des utilisateurs.
Alors, le bouton, c'est pas très, très compliqué à mettre en place. Donc, on a prévu de le mettre en place là, d'ici pour les portails. D'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici décembre. Donc, voilà.
Vous l'avez rêvé, vous l'avez demandé, et c'est presque fait. Une dernière, toute dernière question ? Non ? Alors, un très grand merci à nouveau à Christine, et on clôt cette session.